11h15, 17h15. Le www.rockkick.com vous accueille comme à chaque jour du lundi au vendredi de 8h et midi de 14h à 18h. Merci d'être là en aussi grand nombre. Live@rockkick.com pour nous joindre en studio Wake Up Le Show. Ben, c'est comme ça que ça s'appelle. Ismaël Trépanier, je vous salue. On a Claude Reichmann qui est au bout du fil. Monsieur Reichmann, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Bonjour et bonjour à tous nos amis canadiens et ceux de France, parce que je crois que on nous écoute également en France.
Vous êtes énormément écoutés, on est énormément écoutés aussi de la France, ça c'est certain, et même, je vous dirais, Belgique, la Suisse, Grenoble, j'en passe beaucoup, je peux pas tous les nommer, mais quand même, il y a une forte...
Merci, c'est gentil à vous, et c'est aussi un hommage rendu à votre station libre et à la liberté d'expression qui règne.
On y travaille, M. Reichmann, c'est comme ça que bien ça fonctionne. Sûr. Alors, on tombe tout de suite dans le feu de l'action. Ben, juste avant de parler de cette histoire du joueur, du racisme, là, qui est encore à l'honneur en ce jour avec le Figaro. Là, on est à combien de jours, c'est ça, je crois que c'est le 21, c'est bien ça?
C'est dimanche.
Dimanche, exactement.
C'est 2 jours exactement, même pas tout à fait, puisque le scrutin commence le dimanche matin. Et que nous sommes ici en France en fin d'après-midi. Donc dans 1 jour et demi, les Français vont commencer à aller voter. Et la plus grande incertitude règne sur le résultat final, en tout cas en ce qui concerne les principaux candidats. Et il y a une très grande prudence chez les observateurs les plus intelligents. Les autres s'engagent évidemment résolument dans toutes les impasses qui se présentent à eux. Mais effectivement, ce scrutin est très incertain parce que, en réalité, il semble bien que les sondages ne soient plus très capables d'apprécier le comportement des électeurs. Et il y a beaucoup de nouveaux électeurs, d'une part. D'autre part, il y a des candidats nouveaux. Il y a également le fait que les gens qui sont appelés par les instituts de sondage sont de plus en plus difficiles à joindre, car il y a pas mal de gens qui n'ont qu'un téléphone portable, ils ont remplacé leur ligne fixe par un portable, et il n'y a pas d'annuaire des portables, donc c'est encore plus aléatoire d'appeler les gens. Et j'ai le sentiment, qui est partagé d'ailleurs par pas mal de gens, que les sondages ne sont pas tout à fait près de la vérité.
Monsieur Reichmann, on vous dit félicitations encore pour votre télévision exactement que vous avez sur Internet.
Oui, merci beaucoup.
Je ne sais pas si l'engouement ou enfin l'intérêt est fort de ce qu'on
a. Écoutez, elle a beaucoup de succès. J'en suis moi-même étonné parce que il n'y a eu aucune publicité sauf ici ou là quelques sites amis. Mais c'est le bouche à oreille ou l'internet à oreille qui a marché, et il y a actuellement plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et ça augmente de façon géométrique, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent voir les émissions. Alors je pense que les deux aspects sont importants dans cette affaire. Le premier, c'est que l'objectif, c'était de donner la parole d'une manière cohérente et suffisamment longue à des gens qui ont des choses à dire, chose qui ne leur arrive pas dans les autres télévisions où ils disposent souvent au mieux de 4 ou 5 minutes d'antenne, et c'est vraiment très insuffisant.
Coupé de publicité, oui.
Voilà. Et puis le second aspect, c'est que nous avons structuré la télévision de telle manière qu'on puisse la regarder vraiment à son choix, puisque les émissions sont divisées en deux. Alors on peut les regarder dans la foulée, bien sûr, mais beaucoup de gens n'ont pas le temps de se mettre pendant une heure devant leur ordinateur, et donc ils peuvent regarder une partie, puis ensuite, sans rien perdre, parce qu'ils commencent exactement à l'endroit, c'est facile à faire, à l'endroit où ils se sont arrêtés, donc ils reprennent la vision de l'émission. Et l'avantage également pour ceux qui sont invités, c'est que pendant 4 semaines, l'émission à laquelle ils ont participé se trouve visible. Donc il est quand même très rare d'offrir à des invités, qui sont souvent des gens à la fois compétents, qui ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de messages à transmettre, de leur offrir 4 semaines de présence permanente sur une antenne.
Exactement, et Dieu sait qu'avec Internet aujourd'hui, il y a plusieurs façons c'est une des façons les plus rapides pour passer le mot entre internautes, et surtout quand les sujets sont fort intéressants. Je suis allé voir moi-même à quelques fois sur votre télévision. Et franchement, que dire du bien? Je n'ai que du bien à dire. C'est intéressant, merci. C'est toujours punché et fort intéressant. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé que nous aimerions installer une bannière de Claude Reichmann.
Avec plaisir, oui.
Ça me ferait plaisir de le faire. Pas parce que vous venez comme ça à chaque vendredi et vous prenez de votre temps, et ça c'est très apprécié, c'est fort apprécié, Monsieur Reichmann.
Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez faire une bannière, ce sera un honneur pour moi.
Ça va nous faire plaisir d'en faire une, même bien plaisir, Monsieur Reichmann.
D'accord.
On tombe sur le racisme qui est encore à la une, mais là sur peut-être un créneau que vous êtes plus ou moins. Est-ce que vous êtes du genre sportif à suivre le foot, par exemple, de votre côté?
Ah oui, je m'intéresse beaucoup au football. Je l'ai pratiqué en compétition universitaire.
Ok.
Et donc, je suis... vous savez, moi, je suis allé sur un stade de football pour la première fois. Je devais avoir 3 ans. Et donc, avec mon père, qui était pratiquant, bien sûr. Ensuite, il a été dirigeant sportif. Il a été président d'associations sportives, de football, etc. Et je me suis toujours beaucoup intéressé à ce sport, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres sports. Et je suis, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, quand j'ai le temps, les compétitions nationales et internationales. Et j'aime aussi beaucoup, et ça va peut-être vous surprendre, un de mes grands plaisirs, c'est l'été, quand je vais à la plage, je vois des gamins qui font des parties de football. Je peux rester des heures à les regarder, d'abord parce que j'ai le temps, ce qui n'est pas le cas pendant l'année. Et deuxièmement, parce que je m'émerveille des gestes qu'ils savent faire déjà. On voit déjà poindre les grands champions.
Oui.
Et c'est vraiment fascinant. Alors, ils jouent sur le sable, c'est tout à fait sympathique, charmant. Et j'avoue que c'est un de mes grands plaisirs.
Il y a un individu qui se fait taxer de racisme, un certain Barros, qui enfin comme un signe en se bouchant, en se pinçant le nez et en battant sa main à l'air près d'un individu qui est de race noire, Stéphane Mabia, qui il a la tournure des événements. C'est spécial de voir à quel point, parce que là on a écouté Canal+, j'ai écouté France 3, et j'ai une impression que on essaie par tous les moyens de passer le geste qu'il a fait pour raciste, quand pourtant lui, il explique son geste en disant que c'est tout simplement pour mentionner qu'il voulait avoir de l'air et qu'il se tasse, fait de l'air, va-t'en. C'est ce qu'il voulait mentionner. C'est assez étrange, ça, que les médias reprennent ça et poussent la machine pour que ce soit un acte raciste. C'est très étrange, M. Reichmann. Vous en pensez quoi?
Ben, écoutez, j'ai vu, comme vous, ces images qui passent en boucle sur les télévisions. Je ne regarde pas beaucoup la télévision, parce qu'une fois encore, je n'ai pas beaucoup le temps, mais là, c'est difficile d'y échapper, ce qui prouve qu'il le passe systématiquement.
Oui.
Effectivement, l'interprétation la plus immédiate, moi je ne suis pas un spécialiste du langage des signes, mais le gars, le tchèque, l'international tchèque Milan Baros, se bouche le nez et fait de la main ce geste qui semble chasser une mauvaise odeur. Mais il le fait effectivement à l'intention de ce Camerounais, Stéphane Bia, qui joue au stade de Rennes. Et donc, l'interprétation la plus immédiate pour n'importe qui, c'est quand même que c'est ce, comme chante Renaud, « Casse-toi, tu pues ».
Oui, 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 voilà. Exactement.
Mais lui dit que ça n'est pas du tout ça. Il dit que le joueur camerounais était chargé, enfin de Rennes, quoi, était chargé de le marquer de trop près, et d'une manière que le tchèque lyonnais estimait irrégulière, et il dit que son geste voulait simplement dire « lâche-moi un peu les baskets ».
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors donc, je pense que ça survient dans un climat qui est un climat extrêmement tendu en France, qui se manifeste un peu partout, surtout sur les stades, parce que les stades sont quand même des lieux de passion, et souvent de passion mauvaise maintenant. Et je ne sais pas, alors je me garderai bien d'avoir un avis, parce que comment voulez-vous savoir?
Ouais, oui, c'est
très difficile. Je sais que les dirigeants de Lyon ont pris la défense de leurs joueurs, l'entraîneur également a juré ses grands dieux qu'il n'était pas raciste, et le président de Rennes, lui, s'est plaint apparemment. Mais vous savez que ça peut être très grave, parce que s'il y a des manifestations, le règlement sportif peut prendre des sanctions très sévères pour toute manifestation qualifié de raciste, mais je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il s'agit certainement d'un prétexte monté en épingle pour essayer de faire monter un climat de plus en plus conflictuel.
Ben oui.
Et c'est un climat qui, vous savez...
Mais ça m'a donné cette impression-là, M. Reichmann. Quand j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardé plusieurs fois. Et oui. Si je me fie aux gestes, oui, effectivement, c'est sûr, si on s'arrête à la façade, si on pousse pas l'hypothèse un peu plus loin, oui, effectivement, on peut dire de manière systématique, que le gars fait vraiment merde, il sent la merde ou quelque chose comme ça.
Voilà,
bon.
C'est ça.
Mais pourtant, lorsqu'il mentionne ces mots, ça me semble logique. Il y a vraiment quelque chose qui est logique dans et qui me semble véridique de la part de ce joueur de foot, et que les médias, eux, pour le sensationnalisme, comme d'habitude, parce qu'on en fait tous à quelque part, si on en faisait pas, on n'aurait pas de code d'écoute. Il faut se l'avouer une fois pour toutes.
Les
malhonnêtes n'avouent jamais, et les gens honnêtes se font frapper dessus. C'est aussi simple que ça. Alors il faut en faire un peu, et pourtant quand j'ai regardé, que ce soit le Canal Plus, plusieurs personnes le prénomment autrement, M. Reichmann. Et quand j'ai regardé France 3 ou encore Euronews, et ça me donne une impression que, comme vous l'avez dit, en épingle, on a grimpé tout ça, et on en est à cette étape-ci qu'on accuse un individu de racisme par rapport à son geste.
Il faut quand même savoir qu'il y a souvent dans les stades français... des spectateurs, une minorité bien sûr, une toute petite minorité,
oui,
qui dès qu'ils voient un footballeur noir, poussent des cris de singe. Bon, c'est évidemment une
situation
à la fois stupide et inacceptable,
mais, oui.
Mais vous savez, le supporter de football, ça n'est plus la personne, comme je me décrivais tout à l'heure, qui a pratiqué le sport, qui le connaît bien, qui l'aime et qui le respecte. Souvent, ce sont... Il y a aussi des voyous dans les stades, il faut le savoir.
Oui.
Alors ces voyous sont une petite minorité, mais ils polluent parfois le public. Et je crois que c'est un climat qui est dû au fait que les exutoires manquent dans notre société. On est une société extraordinairement policée, mais pas polie. C'est-à-dire, il y a énormément de répression des conduites, et parce que l'État est tout puissant, il veut vous dicter la manière dont vous devez procéder pour vous déplacer, pour manger, pour vous soigner, etc. Enfin, l'État est vraiment tutélaire, et du coup, vous avez des gens qui ne le supportent pas, ou bien d'autres qui n'ont jamais été élevés, parce qu'il y a ça aussi de plus en plus. Vous avez
oui.
des gens qui sont issus de familles éclatées, décomposées, recomposées, ou qui n'ont jamais reçu le moindre commencement d'éducation, et qui se comportent comme des sauvages. Donc,
oui.
Cela étant dit... je ne crois pas que ce genre d'affaire devrait être monté en épingle, parce que, d'abord, elle est très rare. Sur un stade, la plupart des joueurs se conduisent à peu près bien, sinon ils sont sanctionnés. Et deuxièmement, parce que ça donne à penser que la France est un pays raciste, ce qu'elle n'est pas. Donc je crois que ceux qui montent ça en épingle, au fond, n'ont qu'une envie, c'est qu'un climat d'intolérance se multiplie, et d'intolérance dans le sens inverse d'habitude de celui qui est entendu. Et donc, il pousse au crime, si vous voulez. Puis, si on y ajoute ce que vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine volonté de sensationnalisme, c'est dur à dire, et donc, on peut dire que c'est un micro-événement, si vous voulez, mais qui a du sens parce qu'il est monté en épingle. Donc, c'est cela qui me paraît important et extrêmement désagréable. Là, j'ai sous les yeux la une du journal Le Parisien. Vous avez en haut... Nicolas Sarkozy, la moitié de la page, Nicolas Sarkozy face au lecteur du Parisien disant « J'ai des cicatrices partout » et en dessous « Barrot, c'est-il raciste ?» Voilà. Donc, entre nous soit dit, je ne crois pas que ces deux informations soient de même niveau ou d'une même nature.
Exactement.
Bon, Monsieur Sarkozy et des cicatrices, alors peut-être les a-t-il eus en jouant au football, je ne sais pas, j'ai pas eu là.
Mais il n'y a jamais... Mais dites-vous, Monsieur Reichmann, je travaille au niveau des médias, j'en lis, j'en mange pratiquement, et
oui.
Je vous dirais qu'il n'y a jamais rien pour rien qui arrive, qu'on installe Sarkozy qui parle de cicatrices, et que tout de suite en dessous, on a, vous savez quoi, attendez, mon prénom et nom, ce n'est pas Ismaël Trépanier, là, je m'appelle Kiri le clown, par exemple, là. On n'a pas fait exprès de placer, vous savez, ces deux nouvelles-là, comme par hasard, l'une à côté de l'autre.
Oui, mais là, il y a certainement... je dirais, ben vous savez, la composition d'une une est probablement l'acte le plus important des journalistes d'un journal ou d'une publication, et il y a des gens même qui ne s'occupent que de ça, il y a des gens qu'on appelle des titreurs, et qui font effectivement les titres des publications, et tout ça, évidemment, n'est pas le fruit du hasard, mais je crois que ça s'inscrit dans un climat extrêmement vindicatif qui règne actuellement en France. La France n'est pas un pays heureux en ce moment. Il n'est pas heureux, pardon, parce que les choses ne vont pas bien, l'économie se porte mal, il y a de l'insécurité, il y a de grandes inquiétudes sur l'avenir, et notamment sur les retraites. J'ai lu un sondage indiquant que 83% des Français sont inquiets pour leur retraite. Alors, ils sont inquiets et ils vont le rester, parce que la campagne électorale, à aucun moment, n'a abordé le sujet. Vous savez, on fait une campagne électorale dans laquelle il s'agit de savoir si M. Sarkozy a des cicatrices ou si Mme Ségolène Royal a une ligne qui convient à tous les hommes. Donc, ça n'est pas vraiment digne d'une campagne présidentielle. Et donc, tout ceci crée un très mauvais climat dans lequel des incidents tout à fait mineurs, comme celui de cette altercation entre deux joueurs de football, prennent une importance qui devient symbolique. Et donc, en outre, il y a un aspect, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Monsieur Frech, qui est le président du conseil régional de la région Languedoc, Midi-Languedoc, qui avait déclaré récemment que l'équipe de France était constituée pratiquement uniquement de Noirs, et pour s'en plaindre. Et donc, il est vrai que les footballeurs africains, qui sont excellents d'ailleurs, sont très nombreux à jouer en France. Ils sont nombreux ailleurs aussi. Tout ceci crée un climat, si vous voulez, qui, en temps normal, ne produirait absolument aucun effet désagréable ou fâcheux. Mais dans un climat de tension sociale, n'importe quoi peut déborder. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune, j'allais bien sûr sur les stades pour y jouer, pour voir les grands joueurs également, et je me souviens que à l'époque, il y avait assez peu de Noirs qui jouaient au football, parce que tout simplement, la grande vague de footballeurs africains de grande qualité n'était pas encore créée ni arrivée. Et quand il y avait un footballeur noir dans l'équipe, dans les tribunes, on l'appelait Blanchette. Si vous voulez. Ça n'avait absolument aucune connotation désagréable, c'était sympathique. Vas-y Blanchette, vas-y Blanchette. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus ça. Et bon, il faut reconnaître que ça devient très désagréable de voir que les médias et ceux qui les inspirent se mettent à installer du racisme partout, et ils vont finir par y arriver, hein, si ça continue comme ça. Ils vont lancer les Français les uns contre les autres, et tout ceci se terminera mal.
Pourtant, je me dis ceci, les élections, ben, les gens sont sur le point de voter le 21, c'est-à-dire dimanche, et c'est ce qui me fait un peu, non pas peur, mais on parle de plus en plus que si un Sarko-Le Pen arrivait au deuxième tour, ce serait la folie furieuse, la guerre, bon, la guerre civile pourrait éclater. Vous en pensez quoi de tout ça?
Écoutez, je pense que la prévision qui a été faite par un certain nombre de gens, et avec, ils le disaient avec beaucoup de conviction, c'est que si Sarkozy était élu, il y aurait dans la nuit qui suit des émeutes, etc. Rien ne le prouve d'abord, et puis personne ne le fait. Mais ce qu'il y a de certain, et ça les partisans de Sarkozy le disent aussi, c'est qu'il y a autour de sa personne un climat de refus. C'est-à-dire qu'il y a une partie, un climat d'adhésion aussi, puisqu'il a semble-t-il un assez bon score dans les sondages, même si on n'est pas sûr qu'il fera ce score-là, mais il y a contre lui des gens totalement déterminés, et c'est ce qu'on appelle le TSS, vous savez, tous au Sarkozy. Et donc, je pense que c'est dû à beaucoup de raisons. La première raison vient du fait qu'il s'y est très mal pris dans sa posture de ministre de l'Intérieur. Il a voulu jouer les cadors, il est allé donc sur la fameuse dalle d'Argenteuil menacer les racailles de les passer au Karcher, et tout ça fait un petit peu matador c'est plutôt, vous savez ce que veut dire matador?
Tueur
de mort, hein.
Oui.
C'est, en espagnol c'est matar los mores, c'est-à-dire tuer les morts, quoi.
Oui.
Et donc matamor est effectivement employé ici dans le sens le plus proche de l'origine du mot. Mais tout ceci a créé un personnage agressif qui, en plus, s'énerve facilement. Et il y a en outre un aspect qu'on n'a pas du tout signalé jusqu'à présent, mais que seul, je me souviens, j'en avais parlé plusieurs fois déjà, et le Canard enchaîné de mercredi dernier a indiqué que, et je crois qu'il a raison, que la dialectique de Sarkozy est en partie responsable du climat très désagréable qui règne autour de sa personne. C'est sa façon de dire, par exemple, eh bien, d'interroger, si vous voulez, la personne qui l'interroge. En la poussant dans les ultimes retranchements de sa logique, en lui disant, donc vous voudriez par exemple que dans le train n'importe qui puisse vous agresser. Donc ce n'est pas du tout ce qu'a voulu dire l'interlocuteur ou l'interlocutrice. La personne a posé une question et Sarkozy a une manière agressive de répondre, oh, et de répondre à une question par une autre question qui pousse la personne qui lui parle dans un climat de, comment dire, de repli sur soi, si vous voulez. Cette personne n'est pas heureuse parce qu'on l'a prise à partie, on lui a dit, alors, donc si vous voulez ceci, c'est que vous voulez une conséquence très désagréable. Alors ça n'est pas du tout, le plus souvent, le cas des personnes qui l'interrogent. Bon, il y a bien sûr des personnes de mauvaise foi et agressives, mais
ben oui,
très souvent ce sont des gens qui veulent simplement s'informer. Et effectivement, il y avait dans, nous parlions tout à l'heure de la une du Parisien, c'est parce que dans le Parisien, qui est paru ce matin à Paris, et en France, il y a Nicolas Sarkozy face aux lecteurs du Parisien. Il y a trois pages complètes de questions et de réponses. Il a fait cet entretien comme d'autres l'avaient fait avant lui. Tous les candidats y sont passés, sauf Ségolène Royal qui s'est déballonnée finalement. Elle n'est pas venue, elle s'est dégonflée comme elle s'est dégonflée au
Ah, final. tiens donc.
Voilà.
Hein, cette femme...
Cas, quand vous lisez,
oui,
le Parisien donne la parole également aux personnes, ces lecteurs qui ont été réunis pour interroger Sarkozy et demandant quelle impression il leur a produite. Eh bien, il y en a 8, je crois. Sur les 8, il y en a une seule vraiment qui n'oppose pas de sentiments désagréables. La plupart des autres disent oui, il est assez brillant, il est capable, mais il est vraiment pas sympathique, il est agressif, on le sent tendu, on sent, au fond, il dit toujours la même chose. Enfin, c'est très négatif, si vous voulez. Et ça, je crois que ça tient d'abord à sa personne, ça tient également à sa dialectique et sa fameuse théorie et sa technique, surtout de la question-réponse aux questions.
Oui.
Et puis ça tient au fait que, depuis des années et des années, il est en permanence chez les Français, il rentre chez vous tous les jours, tous les soirs, sur votre télévision, dans votre journal, et il y a une partie des gens qui n'en peuvent plus. Et je n'ai pas envie de vivre avec Sarkozy en permanence, quoi. Donc comme ils ne peuvent pas foutre un coup de pied dans leur télévision pour la casser, parce que
non,
c'est quand même dommage.
Oui.
Et donc voilà, je pense qu'il y a ça. D'ailleurs, ça me fait penser à...
Mais attendez, qui est le vrai Sarkozy? Article qui nous provient justement de Paris. J'ai peur, lance un élu socialiste en parlant du candidat de droite, Nicolas Sarkozy, qui est toujours en tête des sondages à quelques jours du premier tour d'élection présidentielle française.
Oui.
Peur de quoi, là? Mais qui est le vrai Sarkozy, là, M. Reichmann?
C'est à moi que vous posez la question.
Mais oui, je vous la pose.
Bon, alors je vais vous y répondre dans la mesure où je ne suis pas un sarcologue éminent. Hein,
non.
Mais en revanche, j'ai observé le personnage depuis longtemps. Bon, je pense que c'est un
garçon, ouais,
qui est mu essentiellement par l'ambition, qui n'a strictement aucun principe. Bon, je ne sais pas s'il a des principes moraux dans la vie, ça n'est pas mon problème, mais en tout cas sur le plan politique, il n'en a pas, puisqu'il est capable de défendre tous les jours, d'ailleurs c'est ce qu'il fait en ce moment, des options très contradictoires. Il fluctue au gré de l'opinion qu'il rencontre, au gré des sondages, et donc c'est quelqu'un, enfin moi personnellement, je n'ai aucune attirance vers un personnage de ce style. Je n'aime pas les gens qui changent en permanence. J'aime bien que quelqu'un soit stable dans ses opinions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Bon, si elles sont contraires aux miennes, je le respecterai s'il les défend bien. Mais dans le cas de Sarkozy, j'éprouve personnellement, et beaucoup de gens éprouvent, un véritable malaise. Parce que c'est un homme dont on ne sent pas finalement sûr de lui, parce que quelqu'un qui est sûr de soi ne se comporte pas de manière agitée, ça c'est absolument évident. Et deuxièmement, et surtout, beaucoup de gens disent, et je suis de ceux qui le pensent aussi, qu'il est capable de tout. Alors, il ne va pas aller assassiner père et mère, mais il est capable de changer de politique d'une manière irrationnelle, de lancer des opérations dont il n'aura pas bien mesuré les conséquences, etc. Donc, il n'inspire pas de confiance, et à moi, il ne m'inspire pas non plus de confiance.
Ok.
Voilà, donc c'est cela. Bon, cela dit, il a des qualités, il a de nombreuses qualités, il est très intelligent, il est capable d'avaler beaucoup de dossiers, de les restituer très bien, il comprend vite, il est capable également d'action rapide.
Restituer, M. Reichmann.
Pardon ?
Restituer, M. Reichmann, vous y allez très fort.
mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas sympathique. Voilà, le fond du problème est là. Il a des gens qui sont très dévoués à sa personne et à sa cause, c'est des gens qu'il a placés sous son autorité, apparemment, mais je peux vous dire avec certitude qu'il n'est pas sympathique. En tout cas, la majorité de Français, même de ceux qui partageraient éventuellement ses options.
Question de la part des auditeurs, M. Reichmann, on vous nomme docteur, bien sûr.
Oui.
Docteur Reichmann, sinon, oui, tout à fait. Alors, pouvez-vous nous dire si José Bové est antisémite de la part de Laurent?
À ma connaissance, non, mais vous savez, il a quand même beaucoup flirté avec l'ultra-gauche, et cette ultra-gauche est souvent très très proche de milieux palestiniens extrémistes. Et alors, je ne sais pas si personnellement José Bové est extrémiste. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas pro-israélien, si on peut mettre les deux points ensemble.
Okay.
Si vous voulez. Mais parce que bon, antisémitisme est une chose, anti-israélisme est une autre, même si elles sont parfois liées. Là, franchement, je ne sais pas dans le cas de Bové, mais ce que je sais, c'est un garçon totalement fabriqué et insincère. Car c'est un faux agriculteur, c'est un faux paysan, c'est un garçon qui parle anglais couramment parce qu'il a vécu aux États-Unis et qui boit du Coca-Cola, et qui se présente comme une espèce d'apôtre de la terre et du retour à la terre. Bon, entre nous soit dit, c'est ce qu'on appelle un fumiste, hein, y a pas d'autre mot, quoi. Cela étant dit, c'est un fumiste qui trouve des adeptes, parce que il y a toujours une partie de gens déclassés ou mal intégrés dans la société qui s'en fichent de ce genre de personnage.
Et si on regarde aussi le côté de José Bové, il est un peu terroriste aussi à ses heures, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
C'est un terroriste, là.
Moi, ce qui me met en colère, c'est d'entendre un certain nombre de commentateurs expliquer que M. José Bové a procédé à un démontage d'un restaurant McDo. Alors, je suis désolé, mais c'est l'expression qu'il a lui-même employée pour minimiser la gravité de son geste, mais c'est pas un démontage, c'est un saccage. Il a cassé littéralement un restaurant, et donc les commentateurs, au lieu de dire qu'il a démonté un McDonald's, c'est pour un peu, on aurait dit, voilà, il y a des travaux chez McDonald's, on a appelé l'entreprise Bové pour qu'avec beaucoup de soin, elle démonte l'ancien restaurant et permette de monter un nouveau. Voilà un petit peu comment les médias français présentent ce personnage. Ben non, c'est un type qui arrive là, qui veut tout casser, qui est anti-américain, anti-occidental, et alors même qu'il a vécu... C'est un bourgeois, il faut le savoir. Hein, son père était un chercheur d'origine luxembourgeoise, et qui a fait une très belle carrière, et Bové, finalement, c'est un raté, quoi. Il faut bien dire. Hein. Mais comme tous les ratés, bon, il lui faut faire des actions d'éclat pour lui faire penser qu'il est quelqu'un de bien, quoi.
Oui, un pauvre raté, hein, c'est plaisant. Ouais. Ouais.
Et comme disait l'autre, méfiez-vous des ratés, ils ne vous rateront pas.
Effectivement, M. Reichmann, je suis bien d'accord. On nous demande, est-ce que vous êtes pro-Israël ou pro-arabe, M. Reichmann?
Ah ben, je ne suis certainement pas dans cette logique. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait le plus vite possible une paix entre Israël et ses voisins. Enfin, la paix existe déjà avec beaucoup d'États arabes. Mais je pense que c'est un conflit totalement absurde qui concerne en tout et pour tout 10 millions de personnes. Vous savez, c'est très peu de monde, ce conflit. Mais c'est un de ces conflits passionnels qui n'ont pas de véritable raison d'être et qu'il ne faut surtout pas envenimer. C'est certainement pas... Alors, la position de la France, dans ce point de vue-là, est assez déséquilibré. Le Quai d'Orsay est traditionnellement pro-arabe et anti-israélien. Il y a des gens qui sont farouchement pro-israéliens. Mais le résultat de tout ça, c'est que, finalement, par manque de fermeté, par manque de lucidité et par beaucoup de ratage de la politique américaine au Proche-Orient, en particulier, je pense au gros ratage de l'ère Clinton, le processus de paix qui a été initié à Oslo, a complètement raté parce que Clinton et Madeleine Albright se sont révélés absolument incapables de faire les pressions suffisantes pour que les négociateurs, qui étaient quand même très avancés, il ne faut pas oublier que M. Barak, le Premier ministre israélien, était tout prêt à faire de très très grandes concessions. Il les avait largement exprimées, et que si les Américains avaient été un peu habiles, je pense qu'ils auraient réussi à faire accepter cela par Arafat. Mais donc, il y a eu beaucoup d'occasions manquées, mais je pense qu'il faut le plus vite possible mettre un terme à ce conflit. Alors, ce n'est pas facile, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais
oui,
c'est quand même un conflit qui risque de faire exploser toute une partie du Proche-Orient, alors même qu'il ne concerne qu'un nombre réduit de personnes, dont la plupart ne demandent qu'à vivre en paix. Donc moi, je pense que c'est un de ces conflits dont on aimerait faire l'économie et qui, tout simplement, risque par des conséquences en chaîne d'attirer des événements extrêmement pénibles et parfois dangereux sur l'ensemble de la planète.
Parce que c'est vrai que ça fait des milliers, j'allais dire des milliers d'années, bon ça, faut pas exagérer, mais ça fait
des milliers
plus,
de quoi de
des milliers d'années, c'est ce que j'allais dire, faut pas exagérer là, mais
non, ça, mais en réalité non, parce que ce conflit ne date d'abord que de 1948,
hein, oui, exact,
avant la création de l'État d'Israël. Avant, il n'y avait pas de Palestine. La Palestine, c'était simplement le territoire qui était finalement la Jordanie, quoi, ce qu'on appelait la Transjordanie. Et donc, mais c'est un conflit qui, on en connaît bien les raisons. Les États arabes n'ont pas voulu de la création d'État d'Israël, donc ils ont immédiatement, dès cette création, entrepris des actions de guerre. Bon, les Israéliens se sont défendus, ils ont réussi à remporter ces guerres. Et du coup, les populations qui habitaient ce qu'on a appelé par la suite la Palestine et qui n'existait pas réellement, se sont retrouvés en quelque sorte pris en otage entre les belligérants, et voilà, c'est comme ça que le conflit est né, et finalement il est arrivé à un stade où il faudrait vraiment essayer d'en sortir, mais
oui,
j'avoue que ça n'est pas un problème simple.
Avant de vous quitter, vos prédictions pour le 21 avril, monsieur,
oui,
Reichmann, vos prédictions s'il vous plaît. Ça va.
Alors, écoutez,
Un scénario.
Avant de vous donner mon scénario, je voudrais faire une très rapide analyse des courbes.
Ce
qui est intéressant dans une élection, ça n'est pas seulement le sondage du jour,
okay,
mais de savoir, en prenant le même institut de sondage, donc les mêmes repères, ce que disent les courbes. Bon, je les ai étudiées pour différents instituts. Le dernier en date est celui de ce matin dans le Figaro. C'est TNS Sofres. Et donc, il y a quatre observations même, puisque ces quatre candidats sont les plus importants, sont, comme chacun le sait, Sarkozy, Royal, Bayrou, Le Pen, dans un ordre qui n'est pas encore établi. Le journal montre des courbes qui commencent au mois de décembre dernier, donc il y a 3 à 4 mois. À cette époque, depuis cette époque, M. Sarkozy a perdu 5 points. Si on prend le
5 points, ok.
Madame Royal en a perdu 9, Monsieur Bayrou en a gagné 11, 8, et Monsieur Le Pen en a gagné à peu près 6.
Or, Bayrou en a gagné plus que Le Pen? Oh!
Oui, il en a gagné 8 et Le Pen en a gagné 6. Toujours d'après le mois de décembre. Donc, le directeur de cet institut de sondage, Monsieur Teinturier, Brice Teinturier, est un des seuls, d'après ce que on peut lire dans la presse, qui pense qu'il pourrait y avoir entre M. Bayrou et Mme Royal une inversion des courbes. C'est un phénomène qui est très classique dans la période présidentielle, lorsque vous prononcez, et qui est d'ailleurs une vérité qui dépasse largement la politique. C'est le problème des phénomènes d'opinion qui ont été largement analysés par un certain nombre de spécialistes. Si bien que si l'on prolonge ces courbes, on s'aperçoit finalement que normalement, Bayrou devrait dépasser Royal. Voilà, c'est ce que disent les courbes. Alors, ce n'est pas ce que disent la plupart des sondages, même s'ils reconnaissent que les différences sont quand même dans ce que l'on appelle la marge d'erreur, qui est de l'ordre de 3 à 4 points. Si bien que mon sentiment, c'est que le deuxième tour opposera Sarkozy à Bayrou. Parce que je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen arrive à rééditer son exploit d'il y a 5 ans, même si c'est loin d'être exclu, parce que lui aussi, il a une base extrêmement solide, et d'autre part, tous les événements qui se déroulent en permanence en France militent en faveur de sa candidature. Ça, c'est absolument évident. Cela dit, si on se fie uniquement au sondage, il semblerait que deuxième tour pourrait opposer Sarkozy à Bayrou, et dans ce cas-là, il semble bien que ce serait Bayrou qui soit en position de l'emporter. Mais la plupart des observateurs sont quand même extrêmement prudents. La presse étrangère, d'une façon générale, pronostique Sarkozy royal. La presse française, un peu aussi, pratiquement, mais il commence à se poser des questions, alors que quand on est à deux jours, effectivement, il vaut mieux être prudent. Enfin, ce qui est très amusant, c'est que les instituts de sondage, qui souvent, il faut le dire, racontent un peu n'importe quoi, nous ont parfois complètement enfumés en nous expliquant, vous savez, c'est le jour même de l'élection. Nous, on ne s'était pas trompé. On avait bien prévu, on avait vu le mouvement, mais c'est le jour de l'élection que les gens se sont décidés. Bon, on pensait que personne n'est là pour le vérifier, donc c'est assez facile à dire. Cela étant dit...
On ne voirait même pas un Le Pen au deuxième tour?
Pardon?
On ne voit même pas Le Pen Sarko au deuxième tour?
Assez peu d'observateurs, mais moi je pense que c'est une des hypothèses tout à fait possibles.
Parce qu'Éric Zemmour a mentionné le fait qu'on pourrait l'apercevoir sans problème là-bas.
Ben écoutez, ça, c'est pas du tout impossible, parce que la seule chose qui rend ce pronostic, sinon peu probable, du moins, sur lequel on peut avoir quelques doutes, c'est le fait qu'il y a un phénomène au-delà des intentions de vote. Il y a eu un double phénomène dont Jean-Marie Le Pen s'est parfaitement aperçu, d'ailleurs, et sa campagne s'explique par cela. Alors, il y a une partie de ses électeurs, que certains, et lui-même d'ailleurs, chiffrent environ 3 points, c'est-à-dire 3%, qui sont pour l'instant chez Sarkozy. D'où les attaques de Jean-Marie Le Pen contre Sarkozy sur sa politique en général, sur ses origines, etc. Mais il y a aussi quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup et qui est plus ennuyeux pour Jean-Marie Le Pen, c'est ce qu'on appelle la fonction tribunicienne, c'est-à-dire la fonction de protestation. Or, il semble bien que Bayrou, dont les options ne sont pas du tout identiques à celles de Le Pen, ait réussi à focaliser sur sa personne un certain nombre d'électeurs qui veulent du changement et qui croient, à tort ou à raison, que Bayrou pourrait être l'homme de ce changement. Donc, je crois que Le Pen est un peu pris en sandwich, très relativement, sur ses marges, par ces deux types de phénomènes, et c'est probablement ce qui fait qu'il risque de ne pas être au deuxième tour. Cela étant dit, ça ne serait pas une énorme surprise s'il y était. D'abord, il y a déjà été une fois, et deuxièmement, comme je vous le disais tout à l'heure, les événements militent pour lui, il n'aurait presque pas besoin de se fatiguer, il n'a qu'à regarder passer les trains, et c'est comme ça que les choses se passeront. Hein.
Monsieur Reichmann, je tiens à vous remercier de l'entretien que nous avons eu aujourd'hui. Et je vais vous envoyer aussi une esquisse de la bannière de Claude Reichmann TV, promis d'ici la fin de la semaine prochaine.
Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie, et puis nous pourrons la semaine prochaine, si vous le voulez, commenter les résultats du premier tour.
Oui, ça va être super, j'ai hâte en plus, j'ai vraiment hâte. Même heure, même poste?
Même heure, même poste.
Merci beaucoup, un peu comme Batman là, dans le temps là.
Voilà. Allez, bonne continuation de votre émission et amitié à tous.
Excellent week-end.
Merci, au revoir.
Salut. Alors, vous avez entendu Claude Reichmann. On doit... Attends, hey! Est-ce qu'il me rend... Oui, ok, parfait. J'ai assez... De toute manière, vous savez, j'ai un siffle ultra puissant. On va faire un dernier round-up. Il est 11h53. Grosso modo, rediffusion, ça va être disponible dès 16h, 22h. Pour ce qui est des Français. Et c'est comme ça que ça fonctionne, du lundi au vendredi, Wake Up le Show. Rediffusion 16h pour les North America. North America. Christian, on t'écoute à compter de 13h, oui. 19h, avec Hard Spark, bien sûr. Yes. Et nous, c'est simple. C'est quoi qu'on va faire, Christian?